Je vais vous raconter mon histoire de petite fille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à travers mon histoire, vous allez retrouver la grande histoire avec un H, tout ce que vous avez lu ou entendu. Mes parents sont nés en Pologne, étaient juifs. Ils vivaient dans la capitale, à Varsovie. Et ils ont souffert de ce qu'on appelle l'antisémitisme. Il y en avait beaucoup, hélas. Et il y avait la misère. Donc, ils sont venus en France. Ils se sont connus à Paris, dans le pays des droits de l'homme. Et mes parents se sont mariés. Ma sœur est née en 1929 et moi je suis née en 1934. Hitler était déjà au pouvoir depuis un an. J'étais une petite fille du 20e. J'habitais dans le quartier Ménilmontant, Père Lachaise. Et j'ai été aimée par mes parents. Et je suis persuadée que c'est cela qui m'a aidée à m'en sortir par la suite. Mon papa était menuisier ébéniste et travaillait comme ouvrier dans une entreprise du 12e arrondissement. Et ma maman était femme au foyer. Je chantais beaucoup le soir avec mon père. Et arrive la guerre. J'ai 5 ans. Mon père n'est pas encore français. Mes parents avaient demandé la nationalité française. Mais vu le régime installé, ça n'a pas abouti. Ma sœur et moi, nos parents, à notre naissance, ont demandé, c'est ce qu'on appelait le droit du sol, nous avons été déclarés enfants français, nés sur le sol français. On jouait beaucoup dans la rue. J'avais des petits camarades français d'origine, mais aussi qui avaient fui le régime fasciste de Franco. D'autres qui venaient d'Italie, qui avaient fui le régime de Mussolini. Et tout ce petit monde jouait dans la rue. Et puis, comme je vous l'ai dit, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Hitler envahit la Tchécoslovaquie et la Pologne. Et donc, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Mon père, comme presque tous les papas juifs, se sont engagés pour faire la guerre, pour défendre leur nouvelle patrie, la patrie des droits de l'homme. 80% au minimum des Juifs qui n'étaient pas encore français se sont engagés pour défendre la France. C'est important de le dire. Et mon papa est parti. Comme ils n'étaient pas encore français, on les a mis dans la Légion étrangère. Et on les a envoyés dans le sud de la France pour instruction militaire. Et ensuite, on les a envoyés dans le nord de la France. Et il y a eu ce qu'on appelle la drôle de guerre. Les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, se sont observés sur le front pendant plusieurs mois. Ils ne se battaient pas. Ça s'appelle la drôle de guerre. Et il y a eu le Blitzkrieg, la guerre éclair. Ils ont envahi la Hollande, la Belgique, ont pénétré le nord de la France. Le régiment de mon père a été décimé, la moitié sont morts. Et mon père, plus de nouvelles bien sûr. Donc nous partons sur les routes, ça s'appelle l'Exode. Les Parisiens et le nord de la France se sont mis à fuir pour aller dans le sud de la France et aussi dans l'ouest. J'avais un oncle, une tante et leurs 4 enfants qui ont péri à Auschwitz par la suite. Mon oncle avait un camion et nous sommes partis, donc ma mère, ma sœur et moi, mon oncle, ma tante et les 4 enfants. J'ai vu des gens fuir à pied, des gens à bicyclette, des hommes sanglés de lanières qui tirait une carriole, j'ai vu des femmes pousser des landaus. Tout ce petit monde fuyait à pied. Nous nous arrêtions donc tous les soir, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. Les papas étaient au front et il fallait nourrir les enfants, se nourrir aussi. Un soir, nous nous arrêtons dans une clairière. Ma maman et ma tante nous envoient ma cousine Marie, qui avait 8 ans, moi 6, chercher de l'eau. Il y avait une arrivée d'eau à l'autre bout de la clairière. Nous sommes partis là et nous remplissons notre broc d'eau. Et au retour, j'ai vu 2 ou 3 petits avions arriver devant nous. Ils ont piqué tellement bas sur nous que je me souviens du pilote casqué de cuir et du mitrailleur également casqué de cuir. Et ils sont mis à mitrailler à tout va. Nous nous sommes jetés toutes les deux par terre. J'ai entendu les balles crépiter. Quand on a 6 ans, je vous garantis que c'est difficile. Au bout de quelques minutes, les avions sont repartis. Nous sommes retournés en courant auprès de nos mamans qui étaient affolées. Notre broc d'eau avait été percé d'une balle et l'eau fuyait. Une anecdote d'un enfant qui retient ces choses-là. Et on a continué notre voyage jusqu'à avant Angoulême. Et là, la déferlante armée allemande nous a rattrapés. Il y avait des camions d'Allemands casqués, bottés, armés jusqu'aux dents, des canons, des chars. Et que faire quand on n'a pas d'argent ? Ben, ma mère, mon oncle et ma tante ont décidé de rentrer à Paris. Et mon père revient. Il est resté en vie. Il a été démobilisé fin septembre 1940. Le bonheur pour moi, petite fille de 6 ans. Il retrouve du travail, le foyer reconstitué. Pour moi, tout va bien. Mais ça n'allait pas bien du tout. Mon père est donc revenu fin septembre 40. Quelques jours après, le 4 octobre 1940, il y a eu ce qu'on appelle le fichier juif. Les juifs ont été obligés d'aller se déclarer en tant que juifs. Et jamais, jamais, les Allemands, les nazis, auraient su venir nous chercher si la France n'avait pas fait ce fichier. Et donc, mes parents, ils sont allés se déclarer. Et à ce moment-là, on commençait à tomber contre nous des lois iniques, des lois épouvantables. Interdiction de faire nos commissions, nous n'avions droit qu'à 1 heure, entre 3 heures et 4 heures de l'après-midi. Or, imaginez, en temps de guerre, en temps de pénurie, où tous les Français manquent de tout. Lorsqu'on arrivait, il n'y avait plus rien parfois, où le rideau du magasin était baissé. Et puis, d'autres lois sont arrivées. Toutes les quelques semaines, il y avait d'autres décrets. Je n'avais pas le droit d'aller jouer au jardin avec mes petits camarades. Il y avait sur tous les jardins parisiens interdit aux juifs sur la porte. Sur certains, il y avait une plaque interdit aux juifs et aux chiens. Nous n'avions droit qu'au dernier wagon de métro pour mieux nous repérer. Je ne vous dis pas tous les interdits, je ne vais pas tous les citer, mais ça a été comme ça sans arrêt. Et nous avions des cartes d'alimentation. Nous étions rangés par catégorie. Il y avait les bébés et les J1, J2, J3, jeunes. Moi, j'étais J2, ma sœur J3. Les adultes, A. Les vieillards, V. Et travailleurs de force, T. Les rations étaient toutes différentes. On payait notre nourriture avec de l'argent, mais il fallait donner ses tickets. Et puis, mon père avait retrouvé malgré tout du travail. Il avait une très belle voix, il chantait des airs d'opéra. Et il a trouvé la parade pour nous donner le moral. En revenant du travail, il nous chantait des chansons et je chantais avec lui. Il est resté avec nous pendant quelques mois. et mon père reçoit un billet vert. Mon père est prié de se présenter à la caserne des Tourelles à 7 heures du matin, accompagné d'un ami ou d'une personne de la famille. Et ils étaient tous étonnés, pourquoi accompagnés ? Et puis, ma mère a toujours eu de la prémonition, elle a senti le danger. Alors elle a dit, n'y va pas, c'est un piège. Mon père a dit, je suis en règle, je travaille, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. Nos pères voulaient toujours rester dans la légalité en France. Donc mon père est parti accompagné d'un ami. On a convoqué environ 7000 hommes dans Paris et 3700 et quelques se sont présentés. On les a envoyés dans deux camps, à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, dans le Loiret. Mon père est parti à Beaune-la-Rolande le 14 mai 1941. Plus de nouvelles, et puis finalement il a pu écrire un peu. Il est resté là-bas pendant 13 mois avant de partir pour le camp d'extermination de Auschwitz. Nous avons eu un droit de visite en juillet 1941. J'avais 7 ans, j'étais heureuse d'aller voir mon père. Nous avons pris le train jusqu'à Orléans, et là une carriole tirée par deux chevaux nous a emmenés jusqu'à Beaune-la-Rolande, et nous avons pu nous promener avec mon père pendant quelques heures, je crois, autour du camp, surveillés par des gendarmes français en armes. Nous étions gardés par des gendarmes français. Mes parents s'aimaient beaucoup, j'en ai des souvenirs, mais là, ils se sont disputés, j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi ? Je n'ai pas compris, j'avais 7 ans. Ma sœur m'a expliqué. Après, ma mère, toujours en éveil, elle a dit à mon père, « Viens, on va sauver, on va courir à travers champs, on va trouver du travail chez des paysans et on sera tous les quatre ensemble cachés. » Et là, mon père a dit, « Il n'en est pas question, je reste ici. » J'ai su par un survivant pourquoi mon père et les autres n'ont pas cherché à s'enfuir. Parce qu'on leur disait, si vous fuyez, on s'en prendra à vos familles. Ceux qui ont réussi à s'enfuir de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers sont principalement des jeunes qui n'avaient pas de famille encore. Et donc, mon père part, destination inconnue. On nous a menti jusqu'au bout. On nous a dit, on les envoie pour travailler en Allemagne. C'était le camp d'extermination d'Auschwitz. Et mon père part par le convoi numéro 5 le 28 juin 1942. 28 juin 1942. La date est importante parce que deux semaines après, il y a eu la rafle du Veldiv. Qu'est-ce que la rafle du Veldiv ? C'était la première fois qu'on allait prendre des femmes et des enfants. Presque tous les enfants étaient français. On a convoqué à la préfecture plus de 5000 policiers. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais parmi ces policiers, il y a eu un groupe important de policiers qui n'étaient pas d'accord avec cela. Alors ils sont allés principalement dans l'Est parisien et ils ont lâché dans la rue « Demain, on prendra les femmes et les enfants. » Ma maman a dû l'apprendre. Elle nous a mises chez nos grands-parents paternels qui habitaient environ à 50 mètres de chez nous. Je ne sais pas pourquoi ma mère elle-même ne s'est pas cachée chez mes grands-parents. Je n'ai pas compris pourquoi. Je ne le saurai jamais. Nous nous croyons en sécurité. À l'aube, de grands coups frappés à la porte chez mes grands-parents. « Police, ouvrez la porte !» Ma grand-mère ouvre et on dit à ma sœur et à moi « Allez, habillez-vous vite !» Deux policiers, un en uniforme et un en civil. Et on nous ramène auprès de notre maman. Mais avant d'arriver chez moi, un des policiers nous dit « Vous pouvez remercier votre concierge ?» Oui, ma sœur et moi, nous avons été dénoncées par notre concierge. Ces choses-là arrivaient aussi, malheureusement. Et ma mère, tellement contrariée de nous voir revenir, en pleurs, nous nous préparons en vitesse, nous descendons. C'était à l'aube. On venait nous chercher entre 4h et 6h du matin. Dans la rue, j'ai vu un monde fou. Des femmes avec des petits dans les bras qui pleuraient. J'ai vu sortir des enfants de toutes les portes cochères. Et on nous emmène dans le 20e arrondissement, nous étions nombreux. Donc il y a eu 4 lieux d'arrestation dans le 20e. Mais moi, en ce qui me concerne, moi, on nous a emmenés à la Bellevilloise. Il y avait, je me souviens, des gens massés aux fenêtres, d'autres sur les trottoirs, qui nous regardaient passer, certains les larmes aux yeux, certains faisaient le signe de croix, d'autres nous montraient du doigt en riant. Malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. Je me souviens comment nous avons monté la rue de Ménilmontant pour aller jusqu'à la Bellevilloise. On nous a fait entrer dans la Bellevilloise. Nous étions debout, serrés les uns contre les autres. Il faisait une chaleur étouffante. Les petits pleuraient. Les mamans criaient « Mais où nous emmenez-vous ?» Ma mère a essayé de se frayer un petit passage, tellement nous étions serrés. Et elle disait aux autres femmes « Non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On ne peut pas avec des petits dans les bras. » Et les autres mamans étaient en colère après la mienne. Malheureusement, c'est ma mère qui a eu raison. Une voisine est arrivée auprès d'elle et lui dit « Léa, sa grande fille de 14 ans, a réussi à s'enfuir par l'issue de secours. L'issue de secours n'était gardée que par 2 policiers. » Alors ma mère se tourne vers nous, ma sœur et moi, et nous dit « Vous allez faire comme Léa, et si on vous refoule, vous attendez, vous trouvez le moyen de le faire. Je ne veux plus vous voir ici. » Je n'ai pas voulu lâcher ma mère, j'ai fait un scandale, j'ai hurlé, je ne vais pas te quitter. Alors elle a fait quelque chose que je ne pouvais pas raconter au début sans pleurer. Ma mère m'a giflé violemment, la seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. J'ai lâché ma mère. Ma sœur m'a prise par la main et nous sommes partis vers l'issue de secours. Et là, les 2 policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Moi, j'appelle ça un acte de résistance. Donc, nous sortons de là, nous partons en courant chez nos grands-parents. Et là, ma sœur apprend que ma mère part à Drancy. Drancy, c'était l'antichambre de la mort, c'est-à-dire que tous les trains qui arrivaient chargés de juifs de toute la France passaient par Drancy, et là, on les envoyait par convoi de 1000 vers les camps d'extermination. Et donc, ma mère est là, à Drancy, ma sœur l'apprend. Nous y sommes allés 3 fois avec ma sœur pendant ces 13 jours. La première fois, je n'ai pas vu ma maman, je suis repartie en pleurant. La 2e fois, je pleurais à nouveau et un monsieur m'a prêté une paire de jumelles et j'ai pu voir de loin le visage de ma maman. J'ai reconnu son visage. Elle nous a vus et elle nous faisait ce signe. Partez. Pourquoi ? Parce qu'on était pourchassés par les gendarmes français. Les gendarmes français nous pourchassaient tout autour du camp. Nous étions constamment en danger. Et la 3e fois, nous descendons du car et ma sœur me dit « on repart ». J'ai dit « je veux voir maman, on repart ». Il a bien fallu que je lui obéisse. C'est plus tard qu'elle m'a dit. Comme elle, j'ai vu passer des autobus bondés, mais je n'ai pas spécialement regardé. Par contre, elle regardait dans les autobus. Et dans un des autobus, elle a vu le 29 juillet 1942, elle a vu une partie du visage de ma maman qui était debout, serrée entre d'autres femmes, qui nous a vus sur le trottoir, paraît-il, et qui a fait ce geste. Partez. On ne savait pas, nous, ce qui se passait en Pologne. Et puis, la vie était tellement difficile pour nous. On avait peur tous les jours d'une nouvelle rafle. Et donc, j'ai vécu pendant quelques mois avec ma grand-mère, mon grand-père, ma sœur. Nous vivions dans l'attente, dans la peur. Et arrive la deuxième rafle que j'ai vécue. Le 11 février 1943, donc quelques mois après la rafle du Veldiv. Dans cette rafle-là, on prenait les vieillards sur des brancards ou alors des enfants de 15 jours. Donc, il y a mon grand-père, ma grand-mère, ma sœur et moi. On vient nous chercher. Mon grand-père, paralysé, toujours sur son fauteuil, on l'a laissé, il ne pouvait pas se lever. Et on m'emmène avec ma grand-mère et ma sœur à travers les rues jusqu'au commissariat du 20e arrondissement. Nous rentrons dans le commissariat. Les policiers ouvrent une trappe, je dis bien une trappe, et ils nous font descendre dans les sous-sols du commissariat. Et là, il y a beaucoup de vieillards, pleurant, grelottant, dans le noir, ne sachant ce qui allait leur arriver. Par chance, si j'ose dire, ma sœur et moi n'étions que les deux seuls enfants arrêtés cette nuit-là à cet endroit. Les policiers accompagnaient les gens, remontaient, refermaient la trappe. Et au-dessus, nous entendions beaucoup de cris. Pendant la guerre, on arrêtait les gens parce qu'ils avaient de faux papiers, parce qu'ils n'en avaient pas. Ils avaient brûlé le couvre-feu parce qu'ils faisaient du marché noir pour différentes raisons. Et ces gens-là, au-dessus, qui n'étaient pas juifs, qui étaient français, hurlaient, très en colère d'avoir été arrêtés. Ma sœur me dit « On va tenter le coup, Rachel. On plonge dans les jambes des flics. » Les policiers remontent. On a sauté derrière eux. On a vu que le haut de notre corps. Moi, j'étais couvert de boutons de varicelle. Et ces gens-là, au-dessus, à qui je rends toujours hommage, se sont mis à hurler. Et les cris ont redoublé. « Bande de salauds, quelle honte de s'en prendre à des enfants !» Et au bout de quelques minutes, les policiers avaient tellement assez, je suppose, d'entendre ces cris, qu'ils nous ont dit, à ma sœur et à moi, « Fichez le camp !» Ma sœur a eu le temps d'haranguer les gens qui nous avaient défendus. Elle a dit « Notre grand-mère est en bas, c'est elle qui s'occupe de nous. » Et nous sommes repartis, accompagnés d'un policier, parce que c'était l'heure du couvre-feu. Quelques heures après, notre grand-mère débarque. Que s'est-il passé? Nous supposons, ma sœur et moi, qu'on l'a relâchée parce que les gens qui nous avaient défendus, ils ont dû hurler « Qui va s'occuper d'eux ?» Je n'ai pas d'autre explication. À partir de ce moment-là, les rafles étaient de plus en plus rapprochées. Nous avons compris que nous ne pouvions plus rester là. Mon grand-père étant rentré à l'hôpital Genon, où il est mort, mon oncle et ma tante, avec leur fille aînée, étaient eux-mêmes cachés dans une chambre de bonne à Paris. La grand-mère, ils l'ont prise avec eux, mais il n'y avait pas de place pour ma sœur et moi. On m'a placée dans un centre pour enfants juifs. Il y en avait 6 dans Paris. Nous étions rue Lamarck, dans le 18e arrondissement. Là, j'ai été séparée de ma sœur. J'y suis restée pendant quelques mois. C'était presque la vie militaire. Ça a été des moments très durs. Nous avions le droit à 2 visites par mois, c'est-à-dire un dimanche sur 2. Nous avions le droit d'aller chez de la famille, mais tout était noté. Tout était consigné dans un registre. Il fallait dire où nous allions. Et là, ma sœur s'était mise d'accord avec mon oncle et elle a marqué l'adresse où habitaient mon oncle et ma tante avec leurs enfants avant la guerre. Donc, à partir du moment où nous sommes sortis, ma sœur et moi, nous avons décousu notre étoile et on ne pouvait plus nous trouver. Nous n'étions plus marqués comme des bêtes. Nous sommes partis en courant dans la chambre de bonne où étaient cachées ma grand-mère, ma tante, mon oncle et ma cousine. Et là, j'ai été placée à nouveau dans des familles. J'ai changé sans arrêt d'endroit, séparée de ma sœur. Et en janvier, ma cousine, qui avait 19 ans, qui était résistante, m'a procuré de faux papiers. Je deviens Rolande Sanier. Et ma cousine m'emmène à Château-Renaud, près de Tours. Elle me dit, souviens-toi, tu ne t'appelles plus Rachel. Ton nom, c'est Rolande Sanier. J'avais 9 ans et demi. Et elle me le répète, elle me le rabâche. J'ai dit, oui, j'ai compris. On arrive à Château-Renaud, et là, la nourrice de mes cousins, elle avait 20 ans à l'époque. Elle a caché mes 3 cousins et cousines. Mes cousins la connaissaient depuis très longtemps parce qu'ils allaient en vacances, avant la guerre, chez sa maman. Par contre, elle ne pouvait pas me garder moi. Elle en avait déjà 3 avec elle, elle était jeune mariée. Elle m'a emmenée chez ma nourrice. Je tombe sur une femme acariâtre, désagréable. Elle était très dure avec moi, mais bon. Et je devais me taire, elle ne devait rien savoir, ni personne. Mais il fallait aller à l'école, je n'avais pas de cartable, je n'avais rien. Et je savais que ma grand-mère avait mon cartable. Alors j'ai fait parvenir un petit mot à ma tante et ma grand-mère, mais je n'ai pas envoyé mon courrier par la poste. Tous les courriers étaient ouverts. Si on avait ouvert mon courrier, je mettais en danger mon oncle, ma tante, ma grand-mère, ma cousine, et je me mettais en danger. J'avais beau avoir 9 ans et demi, je l'avais compris. Donc j'ai donné mon petit mot à un camionneur qui partait avec un camion chargé de légumes. Et il est revenu 2-3 jours après avec mon cartable enveloppé dans du papier journal. Ma nourrice lui arrache des mains, enlève le papier journal, l'ouvre. Dans une poche intérieure, il y avait encore un cahier à mon vrai nom que ma tante ou ma grand-mère n'avait pas vu. « Tu t'appelles Rachel, tu es juive !» À partir de ce moment-là, ça a été ma fête. J'ai été battue, menacée d'énonciation, à tel point que je ne pouvais plus communiquer. J'ai toujours parlé aisément, mais à cette époque, j'étais enfermée dans ma peur et ma douleur. Ma sœur, du fait qu'elle avait 14 ans et demi, on l'a mise chez de braves gens, monsieur et madame Proust, qui avaient une petite fille. Et un jour où j'ai pu rendre visite à ma sœur, madame Proust, sa patronne, m'a vue dans un tel état qu'elle est allée prévenir la nourrice de mes cousins. Elle est venue me chercher un mois avant la libération de Château-Renaud par les Américains. Elle m'a emmenée chez sa sœur et son beau-frère. Grâce à ces gens-là, où je ne suis restée qu'un mois, j'ai repris du courage, goût à la vie. J'ai réussi à nouveau à communiquer et à espérer. Voilà, c'était la libération de la France. Je suis retournée à Paris au mois de septembre 1944. J'espérais encore revoir mes parents. Certains savaient déjà les camps d'extermination, mais moi j'étais une enfant, donc je ne savais pas, ma sœur non plus. Donc, nous avons espéré encore pendant plusieurs mois. Et arrive la fin de la guerre. Les Parisiens ont dansé et chanté pendant 8 jours et 8 nuits à tous les coins de rue. Les prisonniers de guerre sont rentrés par la gare de l'Est et les déportés, on les a rapatriés à l'hôtel Lutetia. Ma sœur l'apprend, donc je pars avec une photo de mes parents et je dis « Vous avez connu ?» J'ai pas terminé ma phrase. Qu'ai-je vu ? Un fantôme, un zombie devant moi. Imaginez qu'un homme qui pèse 33 kilos, 35 kilos, qui a les yeux enfoncés dans les orbites, il me faisait peur. Je suis partie en courant avec ma sœur. Ça, c'était les déportés survivants. Et je suis malgré tout retournée plusieurs fois à l'hôtel Lutetia. Il y avait des affiches avec les gens qu'on rapatriait. Nous sommes retournés voir les affiches avec les noms. Je n'ai pas retrouvé le nom de mon père, de ma mère, ni aucun des miens. Personne n'est revenu du camp d'extermination d'Auschwitz. Voilà. J'ai grandi. Pendant quelques années, je suis restée avec ma grand-mère. Et à l'âge de 14 ans, j'ai dû travailler, donc pas d'études. À l'âge de 16 ans et demi, j'ai été émancipée. Je vivais seule dans une chambre de bonne, dans le 10e arrondissement, rue de Lancry. Je faisais de la finition pour les vêtements de dame. Et j'avais tout juste de quoi boucler mon mois. Souvent, je mangeais un morceau de baguette parce que je n'avais plus d'argent. On n'a pas été bien aidés après la guerre. On ne voulait pas nous laisser parler après la guerre. On ne voulait surtout pas nous entendre. On était une ombre grise au tableau. La France avait collaboré avec l'Allemagne et nous avait livré pieds et poings liés. Moi, j'avais besoin de parler. Je voulais parler. J'ai entendu, toi, t'es là, t'es resté en vie. Alors tais-toi, t'as eu la chance de rester en vie. Tais-toi. Dur pour un enfant qui a 11 ans. On parlait de la France résistante, mais on ne parlait pas de ce qui était arrivé aux Juifs. J'ai grandi, c'est à l'âge adulte que j'ai réussi à me structurer, si j'ose dire. Je me suis mariée très jeune avec un fils de déporté qui avait perdu ses parents et ses petites sœurs. J'ai eu une fille, toute blonde comme son papa, les yeux bleus, qui revient à l'âge de 4 ans de l'école en nous disant à son père et à moi: vous êtes des méchants tous les deux. Ah bon? Oui, les autres ont des grands-pères et des grands-mères et moi j'en ai pas. Mon mari, qui est mort jeune malheureusement, n'a pas eu le courage de dire quoi que ce soit, mais on n'a pas le droit de mentir à un enfant. Alors petit à petit, j'ai commencé à donner des explications. Ma fille a été traumatisée. Elle a eu deux fils, mes deux petits-fils. L'aîné, lorsqu'il n'avait pas encore 8 ans, a raconté mon histoire à l'école, devant ses camarades et sa maîtresse. Il revient de l'école et me dit « Aucun enfant n'est au courant de ce qui vous est arrivé, la maîtresse non plus. » Alors il me dit « T'as intérêt à aller parler aux jeunes. » Voilà. Car nous n'avons pas de cimetière. Nous n'avons aucun cimetière. C'est mon petit-fils qui m'a donné le courage de tout remonter à la surface.